Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Ils étaient 16 000 l'année dernière et seront plus nombreux encore cette année. Les rejoindrez-vous sur les routes de Paris à Chartres. Nous sommes à moins d'un mois, de la Pentecôte. Alors, chers auditeurs, ferez-vous partie de cette longue colonne de pèlerins pour ce week-end prolongé ? Comme tous les ans, depuis 1983, l'association Notre-Dame de Chrétienté organise un grand pèlerinage de Paris à Chartres, 100 km de long, 3 jours de marche, d'échanges et de prières. Mais au fil des ans, il grossit et s'est imposé comme le premier pèlerinage mobile d'Europe. Alors pour parler de ce succès et de cette 42e édition, nous recevons ce matin Jean de Torrier. Bonjour Jean de Torrier.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes donc le président de Notre-Dame de Chrétienté qui organise ce pèlerinage annuel vers Chartres. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de votre invitation.
Pour la deuxième année consécutive, les inscriptions donc ont explosé, tant et si bien que vous avez été obligé de les fermer. Alors combien de pèlerins sont attendus et comment vous expliquez un tel succès ?
Alors combien de pèlerins on attend encore un peu ? Les chiffres définitifs, parce qu'il y a moyen de s'inscrire encore dans les soutiens, dans les services qui aident au pèlerinage. On appelle cela les soutiens, c'est tout ce qui est services d'ordre, logistique, il y a beaucoup d'autres services. Donc il y a largement plus de 1000 personnes là dans cet ensemble, hein. Donc il y a encore moyen de s'inscrire. On peut aussi s'inscrire comme ange gardien.
Alors qu'est-ce que c'est les anges gardiens ? Vous pouvez nous expliquer ?
Les anges gardiens, ce sont les non-marcheurs. C'est ceux qui ne peuvent pas venir au pèlerinage et qui s'associent par la prière au pèlerinage. Alors, ils reçoivent un livret, ils disent le chapelet une fois par jour, il y a une prière particulière. Ils envoient leurs intentions de prière au chapitre, et par la communion des saints, il y a une vie spirituelle au-delà du pèlerinage. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a à peu près 5 à 6 000 anges gardiens chaque année. Oui. J'espère que dans quelques années, il y aura autant d'anges gardiens que de marcheurs. Mais pour revenir sur les chiffres, oui, on était 16 000 l'an passé, un peu plus peut-être même. Et cette année, ben, on va augmenter de plus de 10 %. Donc, on donnera les chiffres. En général, je donne les chiffres définitifs à la messe d'action de grâce qui est à Saint-Odile une semaine après le pèlerinage. Mais on va être autour de 18 000, oui, quelque chose comme ça.
Et alors cette explosion des inscriptions, comment vous l'expliquez ? Pourquoi ce succès ?
Moi, je pense que les catholiques, alors on a la Horde d'Or qui vient au pèlerinage de Chartres, on a la moitié des pèlerins marcheurs, hein, donc de ceux qui viennent les 3 jours de Pentecôte, ce sont la moitié à moins de 20 ans.
Ah oui.
Voilà, la moyenne d'âge est autour de 23 ans, grâce au seigneur qui organise, enfin il n'y a pas que des seigneurs d'ailleurs, qui organise le pèlerinage, mais enfin il y a un peu tous les âges, hein, c'est pas que pour les jeunes, mais les marcheurs c'est quand même la moitié à moins de 20 ans, c'est quand même énorme, hein. Vous avez 3 000 pèlerins dans les familles, vous savez qu'on est catégorisé par, il y a des pastoraux pour les adolescents, les familles, qui marchent avec leurs enfants, les enfants 6 à 12 ans, et puis vous avez les adultes. Et sur les familles, il y a 3 000 pèlerins dans les familles. Alors pourquoi tant de monde ? Ben moi, je pense que dans les catholiques, alors on touche essentiellement des catholiques pratiquants, quoique l'an dernier, on a eu pas mal de non-pratiquants. Hein, donc,
ils viennent par curiosité.
Ils viennent, ben, vous savez, on suit ses amis, oui, par curiosité, puis peut-être, je pense, d'abord appelé par la grâce. Mm. par le bon Dieu. On touche, on est un reflet de la société. On voit les catholiques pratiquants aujourd'hui, certains par des observants, eh bien, ils sont très, très engagés. On va les retrouver dans beaucoup d'associations, on va les retrouver dans les mouvements pro-vie. Et ce sont des gens qui sont tout sauf timides, sauf enfouis, comme avait voulu être l'Église après le Concile. Donc, ce sont des ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont très courageux et très exigeants. Ils réclament un enseignement qui soit sérieux, qui soit et justement exigeant. Et puis, évidemment, le fait que le pèlerinage soit bien organisé attire beaucoup de monde. Il y a une grande notoriété maintenant, depuis pas mal d'années. Eh bien, tout ça a un effet attractif, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui viennent qui ne sont pas des milieux traditionnels. On est un pèlerinage de chrétienté, parce qu'on est attaché au rayonnement de la société chrétienne dans la société civile, même si cette société est sans Dieu comme elle est aujourd'hui, même si les Français ne se déclarent plus catholiques. Il n'empêche que l'Église a vocation à rayonner dans cette société, il faut oser le dire, c'est ça la chrétienté. Et puis notre pèlerinage est traditionnel parce qu'elle est attachée, il est attaché à la liturgie traditionnelle parce que montrant particulièrement bien les vérités de la foi.
Et
Eh
alors,
bien, nos jeunes pèlerins aiment cela.
et bah justement, c'est vrai que donc c'est en forme extraordinaire, messe en latin, dos au peuple. Comment est-ce que vous expliquez que ça puisse attirer justement une telle jeunesse, autant de personnes aujourd'hui, ce qui est un renouveau de la tradition?
Parce qu'il faut pas, c'est pas parce que les je vais prendre ma catégorie d'âge pour ne vexer personne, c'est pas parce que les plus de 60 ans sont un peu fatigués parfois que les jeunes le sont. Les jeunes ne le sont pas du tout. Ils sont très exigeants. Ils veulent des enseignements sérieux. Ils veulent une morale qui soit exigeante. Ils veulent des prêtres qui soient bien formés. Et c'est tout ça qu'ils viennent chercher au pèlerinage.
Et alors justement, comment il va se dérouler ce pèlerinage? Est-ce qu'il y a des étapes, il y a un point de départ? Quels seront un peu ce qu'ils vont
Oui.
avoir même comme programme, peut-être des méditations, des messes?
Ah oui, c'est très. Bah c'est, ça se prépare. Là, on est en train de préparer 2025. Vous imaginez un petit peu
Ah oui, vous prenez de
le temps
l'avance.
de préparation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, déjà, on va partir. Rendez-vous à 6 heures du matin pour ceux qui sont inscrits, bien sûr, à Saint-Sulpice. Donc, on va avoir une messe célébrée à 6h50 par l'abbé de la Barre de la Fraternité Saint-Pierre, avec l'homélie donnée par Monseigneur Thouars, que j'ai rencontré avec l'abbé de Massia, qui est notre aumônier, il n'y a pas longtemps, qui est ravi de donner l'homélie et voilà, qui va découvrir notre pèlerinage. Une particularité au départ, c'est qu'il y a une colonne qui va partir, une petite colonne de 2 à 3 000 personnes qui va partir à 7 heures du matin, parce que vous voyez, on fait partir les pèlerins petit à petit, et ces pèlerins qui arriveront sur notre premier bivouac de Choisel auront une messe le soir célébrée par l'abbé Lecoq, qui est un ancien aumônier général de Notre-Dame de Chrétienté, de la Fraternité Saint-Pierre. Donc il y aura la messe à 6h50 pour la plupart des pèlerins, puis une petite colonne qui partira vers Choisel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais un peu vite parce qu'il y aura plein de petits événements, mais le dimanche, on aura la messe célébrée par le père Augustin Marie, qui est prieur de la fraternité Saint-Vincent Ferrier, de grands amis de notre pèlerinage. Le soir, salut du Saint-Sacrement, deux saluts du Saint-Sacrement entre les adultes et les familles enfants, donc par le chanoine Valadier de l'Institut Christ III et par le père Rino de la fraternité Saint-Thomas Becket. Et le lendemain, à Chartres, on aura la messe célébrée par le cardinal Müller, l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. On aura Monseigneur Christori, qui est l'évêque de Chartres, qui nous accueillera, qui sera sur le bivouac de Gaulle le dimanche soir. On aura Monseigneur Rouget, qui nous accueillera sur son diocèse le samedi. Donc il y aura comme ça plein d'événements, avec notamment un événement très important pour nous, justement dans la lignée de la chrétienté dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'érection d'un calvaire à Igny. Justement, pendant la messe, les pastoraux familles enfants ont la messe vers midi à Igny. Et il y aura juste avant l'érection d'un calvaire, donc avec SOS Calvaire. Donc c'est ce que Notre-Dame de Chrétienté fait depuis maintenant, bah, depuis le tout début. Il parsème le chemin de Paris à Chartres de calvaire, parfois en bois, en fer forgé, avec, et on va continuer tout ça. Je trouve que c'est une manière de faire exister justement cette chrétienté dans notre société qui semble-t-il, n'en veut pas. Semble-t-il, parce qu'en réalité, les gens, quand on parle avec eux, ben en fait, je pense qu'ils le souhaitent. Ils souhaitent ce retour de la chrétienté.
C'est un beau message, en tout cas, ce retour de la fierté vraiment d'être chrétien. Tout à l'heure, vous
Exactement.
disiez que vous prépariez déjà celui de 2025. Alors, on imagine donc que c'est un travail de préparation en amont qui est colossal. Quels sont les différents pôles, justement, les différents services qui seront présents et qui ont travaillé durant tout le long, voilà, ces derniers mois et seront présents sur place?
Alors, vous avez un gros travail qui est tout autour du choix du thème. Alors, le thème, je l'annonce en général, je ne l'annonce pas en général, je l'annonce toujours, le soir, le dimanche soir, aux chefs de chapitre, hein, qui sont nos premiers cadres, on va dire. Et puis, je l'annonce aussi dans la cathédrale de Chartres. Donc, ça, je le garde secret, hein, pour l'instant.
Celui de
Donc, voilà le thème
2025.
2025, bien
Celui de
sûr.
2024, c'est les fins dernières, c'est ça?
Voilà, je veux voir Dieu, la phrase de sainte Thérèse d'Avila. Et donc, il y a tout un travail de quoi du thème, et puis surtout de format, de préparation de tout ce qui est les méditations, méditations que l'on adapte à nos pèlerins, qui sont travaillées avec les communautés qui nous accompagnent. Donc, c'est un énorme travail de formation. Il y a aussi un très gros travail fait par toutes les équipes de la sécurité, de la sûreté. C'est tous les rapprochements. Vous imaginez qu'une colonne de 18 000 personnes qui bougent itinérantes. De Paris à Chartres, c'est sous haute surveillance des autorités civiles, militaires. Donc, évidemment, on a des relations avec toutes les autorités, puis avec les préfectures, bien sûr. Donc voilà. Donc, on a ce genre de donc, il y a des équipes qui sont consacrées à ça, qui sont reconnues, professionnelles, et qui arrangent au mieux les choses. Et justement, quand on aurait pu augmenter notre pèlerinage beaucoup plus que ce que l'on a fait. Et si on l'a limité, bien c'est justement par prudence, en discussion avec les autorités et aussi en fonction de nos capacités logistiques pour ne pas pour être pour mieux gérer en fait cette grande masse de personnes.
Et alors,
Il y a un enjeu de sécurité très important en fait.
parmi ces très nombreux pèlerins, on trouve aussi des nationalités du monde entier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur justement ces pèlerins, qui viennent parfois des États-Unis, du monde entier?
J'ai un de mes fils qui est en ce moment en Nouvelle-Zélande et qui rencontre les pèlerins qui vont venir de Nouvelle-Zélande. Vous voyez, c'est un exemple. C'est quand même un voyage, hein.
Ah bah.
Donc, il y a quelques pèlerins qui viennent de Nouvelle-Zélande pour aller à Chartres. Bien, ce sont des pèlerins. Vous avez beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Allemands avec la Suisse alémanique, hein, donc c'est les. Puis après, vous avez un peu tous les pays du monde, hein. Vous allez avoir des Africains, vous allez avoir beaucoup de Sud-Américains, vous avez à peu près. On a 1 500 un peu plus de pèlerins étrangers. On pourrait en avoir beaucoup plus si on augmentait un peu nos quotas. Vous voyez qu'on est un peu en. On restreint beaucoup, hein.
C'est ça, c'est
Et
une
on
question de
encourage. On,
capacité logistique.
oui, oui. On encourage beaucoup à la création des pèlerinages internationaux de chrétienté
Ah, ça, c'est
qui a
bien.
lieu maintenant depuis quelques années. Et donc on les aide tant qu'on peut sur des grands sanctuaires de leur pays. Donc c'est l'Argentine, il y en a deux aux États-Unis. Il y en a un à Melbourne qui s'appelle, j'adore dire ça, le Charles Pilgrimage. Donc c'est quand même inouï ça. Et puis vous en avez aussi en Espagne, bien sûr, Portugal. Et donc on encourage ça. Il faudrait qu'il y en ait en Royaume-Uni, en Allemagne, bien sûr.
Bah, c'est un très beau succès, franchement, entre la dimension internationale, la moyenne d'âge très jeune, et puis bien sûr ce nombre explosif de pèlerins. Je rappelle, je précise pardon pour nos auditeurs, demain soir, mercredi donc 24 avril, il y a cette messe de lancement de Chartres à 19h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Je vous invite évidemment à y aller. Et je vous remercie, Jeanne de Torrier, d'avoir accepté notre invitation. Merci encore, vous êtes le président de Notre-Dame de Chrétienté qui organise ce pèlerinage de Chartres.
Ligne droite.
Et pour ce grand réveil, donc, comme annoncé, nous retrouvons Jacques Lecomte, qui est le directeur coordinateur du pèlerinage de tradition. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, parfaitement.
Merci donc d'être avec nous ce matin. On en parlait à l'instant du pèlerinage de Chartres avec Adèle Rosner, donc, qui était notre envoyée sur le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, donc dans le sens, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, dans le sens qui part de Paris et qui va vers Chartres. Vous étiez donc sur le pèlerinage de tradition, l'inverse. Je suis fatiguée, chers auditeurs, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris. Donc l'inverse, vous êtes coordinateur du pèlerinage qui part de Chartres et qui remonte vers Paris. Cette année, donc, il y avait plus de 5000 pèlerins. Jacques Lecomte, on peut peut-être commencer par là. C'était une réussite, ce pèlerinage ?
Absolument. Écoutez, comme chaque année, notre pèlerinage s'accroît, de manière moins considérable qu'en face, sans doute. Mais effectivement, en 2024 et en 2025, nous avons cru de 1000 puis de 500, ce qui nous sommes arrivés, selon la police, à 8000 à Paris. Donc c'est tout à fait considérable quand même.
Oui, alors vous êtes arrivé à 8000 à Paris, puisque une fois arrivé dans Paris, vous conviez toutes les familles qui n'auraient pas pu participer à l'entièreté du pèlerinage de vous rejoindre donc pour cette procession qui traverse les rues de Paris au rythme des chants pour arriver donc place Vauban où a lieu une messe. C'est un pèlerinage qui est extrêmement familial, parce que c'est vrai qu'on présente ça souvent sous le biais de l'effort physique. C'est vrai qu'il faut être dans une certaine condition. Et en fait, c'est un pèlerinage qui s'est adapté à son public, qui s'adresse vraiment à la fois aux enfants, aux plus jeunes. Il y a des parcours adaptés. On a aussi donc des chapitres qui sont adressés aux jeunes qui sont handicapés. On a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place pour pouvoir rassembler le plus de monde possible jusqu'à permettre aux gens de vous rejoindre pour cette dernière portion dans Paris.
Oui, alors effectivement. Alors d'abord, dans le pèlerinage, il y a effectivement deux colonnes qui se suivent, qui sont la colonne adulte, qui est la plus importante, qui comprend en gros les majeurs, tous ceux qui peuvent marcher facilement, et puis les enfants qui sont les moins de 12 ans et qui ont un parcours adapté, qui représente quand même, la colonne enfant c'est 2300-2400 personnes, dont 1600 enfants, il y a beaucoup d'encadrants, puisque les groupes d'enfants sont réunis de manière à être très, très contrôlés, très surveillés. Et à l'intérieur de cette colonne enfant, il y a aussi un chapitre, le chapitre Sainte-Ludeline, chapitre handicapé, avec un lourd soutien de personnel pour les oui. Pousser, puisqu'il y a un certain nombre beaucoup de handicapés physiques, qui représente 60 personnes et qui réunit d'une part des handicapés qui viennent des maisons de handicapés de la Frontière Saint-Pilice, donc l'association Sainte-Jeanne de Valois, qui est tout à fait proche de la Fraternité Saint-Pilice, organise 3 maisons d'accueil des handicapés. Et ces maisons participent. Et puis, les personnes porteuses de handicap venant de nos familles. Donc, effectivement, le but, c'est d'être ouvert le plus possible au pèlerinage. Bon, le plus jeune de nos pèlerins avait 2 ou 3 semaines, et puis le plus âgé avait, je crois, des marcheurs, 82 ans. Donc, c'est un spectre large.
Et alors, cette ferveur que peut apporter la foi dans ces moments de difficulté de marche, notamment donc pour les plus jeunes et les plus âgés, elle est vraiment encouragée par la présence aussi très nombreuse de ces abbés qui marchent avec les pèlerins tout au long de la route.
Oui, on a vu une centaine de prêtres pour accompagner le pèlerinage, ce qui est un effectif quand même relativement important. Parce que le pèlerinage, c'est effectivement un moment de joie, d'enthousiasme, d'amitié, mais c'est d'abord un moment de prière, de sacrifice. On est, à notre époque, où on est très éloigné de Dieu par la distraction de la vie, qui est particulièrement importante. C'est une nécessité, j'allais dire, presque psychologique, religieuse surtout, de se recueillir pendant 3 jours pour prier, se confesser, dire le chapelet. La Sainte Vierge a demandé à Fatima de dire le chapelet tous les jours. Eh bien, pendant le pèlerinage, on récite le rosaire, c'est-à-dire 3 chapelets, de prier ensemble, d'écouter les prédications de nos prêtres qui nous rappellent que nous sommes catholiques, que nous devons servir Dieu, que nous sommes sur terre de passage. D'ailleurs, le pèlerinage est un passage, hein, c'est bien l'illustration de ce qu'est la vie. Et c'est ça qui compte d'abord. Moi, ça fait 4 ans que j'organise ce pèlerinage. Ce qui me frappe le plus, c'est cette ferveur, cette beauté du pèlerinage. Comme organisateur, ben, je ne marche plus, je l'ai fait pendant longtemps. Je regarde passer les chapitres. Alors effectivement, il y a de la joie, il y a des chants, etc. Mais il y a beaucoup de courage, de ferveur, de sacrifice.
Il faut voir, effectivement, c'est magnifique, toutes ces bannières aussi qui représentent les différents chapitres. Donc, chers auditeurs, le pèlerinage est organisé en chapitres. Chaque personne peut se rejoindre un chapitre. Des chapitres, d'ailleurs, qui ont un nombre de membres assez variable, Jacques Lecomte.
Ah ben c'est extrêmement variable. Si vous prenez les chapitres de Paris, ce sont des chapitres très importants, bon, qui vont aller jusqu'à 80, 90, 100, bon, ce qui est même trop, hein, bon, le chef de région me le disait. Et puis, effectivement, d'autres chapitres peuvent regrouper 20, 25 personnes. L'idéal, ce serait évidemment des groupes de 30 à 40, avec à chaque fois un chef de chapitre qui, lui, a préparé les méditations, préparé le rythme de la vie, hein, pour que la chose se déroule de manière harmonieuse. Et la particularité de ces chapitres, c'est qu'ils sont issus de nos paroisses. C'est-à-dire que la fraternité possède plusieurs centaines de paroisses, et chacune de ces paroisses, ou à peu près chacune de ces paroisses, suscite un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, en général encadrés par leur curé, hein, ou dans un jour où c'est possible, et puis par un des paroissiens, bah, qui a la charité de bien vouloir se guider cette affaire.
Alors, pour organiser le déplacement de plus de 5000 personnes, Jacques Lecomte, on imagine que c'est une logistique énorme, mais il faut aussi effectivement que les pèlerins y mettent du leur. On a un auditeur en direct qui nous écrit combien de véhicules incendiés pendant le pèlerinage. Alors on comprend évidemment l'ironie, et puis surtout au vu des émeutes, mais de ce qui s'est passé à Paris au moment de la victoire du PSG. Ce qu'on peut noter aussi, c'est effectivement qu'il y a quand même une façon de se tenir de la part de ces pèlerins qui fait du bien à voir et qui est agréable. C'est-à-dire que quand on quitte un lieu, généralement, ensuite, tout est propre. Les gens se tiennent bien. Le soir, y a pas, ça ne fait pas du bruit jusqu'à 4 heures du matin. Enfin, on sent quand même un certain respect de la part des participants.
Oui. Alors, effectivement, le pèlerinage est une manifestation reposante pour la police.
Oui.
Nous sommes toujours...
Qui était très présente, d'ailleurs, à chaque point de passage dans les villages.
Oui, absolument. On est dans le montage de ce pèlerinage. Nous prenons évidemment contact avec les mairies des 55 communes que nous traversons, les trois préfectures, hein, Paris, Versailles et Chartres. Et à chaque fois, nous sommes accueillis avec beaucoup de bienveillance, d'une part parce que ça fait plusieurs décennies que nous faisons, donc nous commençons à connaître les gens, et puis parce que ça se passe d'une manière tout à fait paisible. L'entrée dans Paris, effectivement, nous sommes bien escortés par la police, c'est extrêmement variable selon la sensibilité du moment, hein, dans les périodes lourdes, les pirates, l'escorte est un peu importante, et parfois elle est beaucoup plus légère. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de voiture brûlée. Je vous rassure tout de suite.
Et les passants, d'ailleurs, étaient plutôt émus. Hein. Beaucoup se sont mis à chanter avec les pèlerins. On imagine que c'était peut-être des souvenirs, justement, de leur jeunesse, ou pas, d'ailleurs, peut-être de leur vie encore actuelle. Mais c'était très beau à voir. Jacques Lecomte,
c'est assez émouvant. Effectivement, on voit... alors, il y a des gens qui rejoignent, et puis des personnes qui se mettent aux fenêtres. Là, on les voit faire un signe de croix... semble-t-il réciter le chapelet avec nous. L'entrée dans Paris est une très très belle chose. La chrétienté pour une journée, là, une demi-journée, revient dans Paris avec ses bannières, ses prières, ses prêtres. C'est une très très belle symbolique.
Alors, Jacques Lecomte, on reste avec vous encore quelques minutes. J'annonce la suite aux auditeurs quand même pour 7h30. On parlera des défis de François Bayrou pour le budget 2026 avec Philippe Darvissonnet. Pour l'instant, on continue encore un peu à parler de ce pèlerinage de Chartres. Jacques Lecomte, l'arrivée du pèlerinage devait initialement se faire sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Finalement, ça a eu lieu place Vauban. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
Alors, je vais très, très brièvement vous raconter l'affaire. Donc, le supérieur de district, l'abbé Peignot, m'a dit qu'il souhaitait arriver sur le parvis de Notre-Dame. Alors, effectivement, Notre-Dame, c'est Notre-Dame de Paris, je ne vais pas commenter. En plus, on a été pris d'un amour plus important de Notre-Dame, avec l'épreuve terrible qu'elle a subie, et puis cette merveilleuse reconstruction. Et donc, eh bien, en novembre dernier, j'ai appelé l'évêché pour demander si nous pouvions arriver devant Notre-Dame. Et je suis tombé sur un prêtre, je n'ai pas vu l'évêque, qui m'a dit, mais écoutez, vous faites la demande à la préfecture qui nous transmettra, hein, c'est comme ça que c'est la procédure. Donc nous avons pris le contact avec la préfecture, où nous avons été bien accueillis, hein, nous avions présenté un projet qui ne gênait pas l'accueil des nombreux touristes encore, et nous avons monté un dossier assez compliqué, parce qu'effectivement on a besoin de 2000 m² pour mettre les sacs, par exemple. C'est pas tout à fait simple au centre de Paris, hein, sachant que la place de la préfecture n'est pas un lieu où on peut mettre 4000 sacs non fouillés. Bon. Et puis, les affaires se déroulaient tout à fait bien. Et puis, il y a 8 jours, nous avons appris que l'évêque venait d'apprendre notre arrivée. Bon, donc je pense qu'il y a eu un malentendu. Ils sont trompés de pèlerinage, je ne sais pas où ça s'est pas transmis. Et qui était extrêmement mécontent. Bon, on a pris acte de ça. Et puis, mercredi dernier, à midi, la préfecture nous a envoyé un message nous disant que pour des raisons de sécurité, le pèlerinage ne pouvait pas être autorisé. Sans autre, les raisons de sécurité. Hein. Donc on sait que le préfet, manifester est un droit, mais que les autorités peuvent interdire ou modifier les projets pour les raisons de sécurité. Et qu'il fallait, et que pour préserver notre droit à manifester, puisque c'est comme ça que c'est décrit légalement, eh bien, nous étions autorisés à nous rendre à Vauban. À ce que nous avons fait. Donc, j'ai pas plus d'informations sur la réalité des choses. Hein. Il y a le mécontentement de l'évêque, et puis il y a cette décision préfectorale.
Évidemment, on peut se poser la question de savoir la façon dont est accueillie la ferveur qu'on peut noter justement pour une vision plus traditionnelle de l'Église, de la façon dont doit être pratiqué le culte. C'est quelque chose d'ailleurs qui est ressenti aussi sur le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté. On a une forme de crispation de la part de certains évêques. Malgré tout, ce qu'on peut noter, c'est que cette ferveur est là et plus personne ne peut la nier aujourd'hui. La tradition, c'est ce qui réveille les cœurs aujourd'hui au sein de l'Église. Jacques Lecomte.
Ben oui, c'est-à-dire que la tradition est vraiment à l'opposé de toutes les évolutions que l'on connaît dans l'Église depuis le Concile Vatican II. La vision de la Fraternité Saint-Pédis, c'est que le Concile Vatican II, le magistère depuis ce concile et la nouvelle messe qui en est issue sont des tragédies absolues contraires au message du Christ. Et qu'il faudra que l'Église retourne à la tradition. Nous ne réclamons pas seulement le droit d'exister, nous prions surtout pour que l'Église retourne à la tradition. D'ailleurs, à cet égard, nous irons l'été prochain à Rome, hein, les 19, 20 et 21 août. Nous irons à Rome parce que nous appartenons à l'Église catholique, parce que Rome, c'est... nous aimons le pape, nous aimons l'Église, nous voulons prier pour eux, et nous voulons que cette Église retrouve la mission qu'elle a gardée pendant 2000 ans de transmettre le message du Christ dans son intégrité, sans céder au mode libéral qui la défigure depuis quelques décennies.
Au-delà des questions internes à l'Église, vous souciez également, et ça s'est ressenti dans ce pèlerinage, des questions de société qui sont parfaitement d'actualité, notamment donc le sermon de cette dernière messe qui a été donné place Vauban face aux Invalides et qui a commencé donc avec l'abbé Peignot qui nous a parlé de cette loi pour l'euthanasie qui est en train de passer en France et donc qui a rappelé le rôle crucial de l'Église et des croyants pour justement faire face à cette société qui parfois, on en a la sensation, dérive un petit peu.
Oui, dérive un petit peu, c'est un euphémisme. Oui. Il est vrai que l'avortement pour lequel l'Église, les hommes d'Église, je parle, extrêmement peu réagi. Je me souviens de Mgr Marty disant qu'il ne faisait pas de politique, donc il n'allait pas prendre position là-dessus. Le divorce, maintenant l'euthanasie. À chaque fois, on s'attaque aux plus faibles, à ceux qui sont... notre société s'attaque aux plus faibles, à ceux qui sont en difficulté. Et à chaque fois, les plus faibles sont menacés, sont brimés, tués, hein, bon, en l'occurrence. Et effectivement, c'est vraiment le devoir de l'Église de rappeler cette vérité éternelle, hein, que, ben, vérité éternelle du mariage concernant le divorce, et puis vérité éternelle que la vie appartient à Dieu, hein, et que le métier, ben, de la médecine des hommes, c'est de préserver cette vie tant qu'ils peuvent, tant que Dieu ne vient pas la reprendre, tant que Dieu ne rappelle pas. C'est Dieu qui décide de la seconde ou exacte devant laquelle nous paraîtrons devant lui. Et c'est important de prier pour ça, de se battre pour ça. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quel point toutes ces réformes tragiques qui détruisent notre Église, qui détruisent nos familles, eh bien, passent dans une relative indifférence. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de débat politique sur le sujet, alors qu'il s'agit de l'homme.
Jacques Lecomte, on va finir sur ces mots. Merci beaucoup. En tout cas, ce pèlerinage, c'était une belle preuve qu'en fait, on peut être heureux en arrêtant l'individualisme, justement, et en se souciant des plus faibles. On peut y trouver de la joie, puisque tout le monde s'entraîne et on arrive finalement tous ensemble au bout du chemin. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir organisé donc ce pèlerinage de tradition. Et puis, on se dit à l'année prochaine. Merci.
Je vous remercie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour mon père.
Bonjour.
Alors,
bonjour à tous.
Est-ce que vous pouvez nous donner l'étymologie du mot Pentecôte ?
Eh bien, Pentecôte, ça vient du grec penta, c'est-à-dire 5, puisque Pentecôte, eh bien, la fête de la Pentecôte vient 50 jours après la fête de Pâques. Et donc, c'était déjà une fête du temps du peuple juif, et puis dans la religion chrétienne, eh bien, on fête la Pentecôte 50 jours après Pâques.
Mmh.
Voilà.
Et donc, à quel passage de la Bible cette fête fait référence ?
Alors, cette fête fait référence évidemment à plusieurs passages, mais évidemment à celui des Actes des Apôtres. Vous savez que les Actes des Apôtres qui ont été écrits par Saint Luc racontent l'histoire des apôtres, des disciples du Christ, après l'ascension. Et dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, eh bien, il y a ce passage où les disciples du Christ sont enfermés dans le cénacle, dans une salle à Jérusalem, parce qu'ils ont peur des Juifs. Et ils sont tous ensemble dans un même lieu, et d'un coup se produit un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux, et puis il y a des langues de feu qui apparaissent sur chacun des apôtres et la Vierge Marie qui sont réunies. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit, et le premier effet de la Pentecôte, eh bien, c'est qu'ils se mettent à parler chacun dans les langues qu'ils ne comprennent. Enfin, ils se mettent à comprendre et à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas avant. Et donc ils sortent, et la foule accourt au grand bruit que cela a fait, et la foule est stupéfaite, puisque chacun entend les apôtres parler dans sa propre langue. Et donc c'est le début, c'est l'accomplissement du début du commencement de l'Église, puisque c'est le moment où les apôtres, du coup, délivrés de leur peur très humaine, eh bien, partent à la conquête du monde pour répandre l'Évangile et répandre la parole du Christ qui laisse désormais son Église et ses apôtres continuer son œuvre sur terre.
Donc c'était l'ascension la semaine dernière, aujourd'hui c'est la Pentecôte, vous me dites que c'est donc 50 jours après Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé entre Pâques et la Pentecôte ?
Alors, pendant ces 50 jours qui ont séparé Pâques et la Pentecôte, eh bien, le Christ est resté au milieu de ses apôtres, alors jusqu'à l'ascension, c'est ce qu'on a fêté la semaine dernière, effectivement. Lors de l'ascension, le Christ quitte ses apôtres et monte au ciel avec son corps glorieux, mais il enseigne à ses apôtres. Alors, on a tous les enseignements, il y a quelques-uns de ces miracles, quelques-uns de ces enseignements qui sont rapportés soit à la fin de l'Évangile, soit dans les Actes des Apôtres que je viens de citer. Mais pendant tous ces jours, eh bien, on peut être sûr que le Christ a enseigné à ses apôtres ce qu'ils devaient faire. Il leur a donné tous les dons, toutes les ressources nécessaires pour l'Église. Il leur a sans doute appris à célébrer la messe, il leur a sans doute appris à donner les sacrements, il a sans doute précisé sa doctrine. Et cela est très important parce que ça nous montre que notre foi n'est pas une foi du livre. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas fait livre, comme c'est le cas dans l'islam, par exemple, ou comme c'est le cas dans certaines interprétations protestantes. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait une personne humaine, et la personne divine s'est fait homme, a assumé la nature humaine. Et ensuite, donc, il a prêché, il a parlé. Voilà pourquoi on puise, la foi de l'Église est puisée à la fois dans la Sainte Écriture, mais aussi dans la tradition, c'est-à-dire que dans cet enseignement oral du Christ donné aux apôtres, et ensuite transmis de génération en génération par l'Église.
Et donc, vous dites qu'il est réapparu avec un corps glorieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer théologiquement qu'est-ce qu'un corps glorieux ?
Alors, c'est difficile, je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que le Christ a un corps, mais c'est un corps qui a un corps de gloire. Voilà, je ne sais pas si ça n'éclaire pas beaucoup, mais c'est-à-dire que c'est un corps sans les faiblesses de la matière. Et nous sommes tous appelés, d'ailleurs, à ce qu'on appelle le dogme de la résurrection des corps, à la fin des temps, puisque notre âme, c'est notre âme qui est éternelle, qui est faite pour l'éternité, mais notre âme est faite pour un corps. Et si notre âme vivait sans un corps, sans notre corps personnel, individuel, eh bien, elle serait un peu comme il lui manquerait quelque chose. Et donc, nous aussi, notre corps va ressusciter à la fin des temps, mais on espère bien qu'il va ressusciter dans un état différent de celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire sans ses faiblesses, ses infirmités, ses défauts, etc. Et donc, le corps glorieux, c'est un peu comme le corps matériel, mais rendu parfait. Et donc, il est, d'une certaine façon, plus spirituel que ce qu'il est dans sa matière aujourd'hui. Alors c'est comme ça que le Christ, par exemple, apparaît soudain au milieu des apôtres ou traverse les murs. Donc, un corps glorieux n'est pas soumis aux lois et aux infirmités de la matière. Et par exemple, il y a deux exemples qu'on peut citer qui sont célèbres dans le cas du Christ, c'est que lorsqu'il ressuscite, Sainte Marie-Madeleine, qui est la première à qui il apparaît, Sainte Marie-Madeleine ne le reconnaît pas. Peut-être vous vous souvenez, elle va chercher elle veut aller au tombeau pour embaumer le corps du Christ. Elle voit le tombeau ouvert et donc elle est désespérée, elle se demande ce qu'il s'est passé, et là elle voit un homme qu'elle prend pour le jardinier, et donc elle lui demande: qu'avez-vous fait du corps de celui qui était enterré là? Et là quand il lui parle, elle reconnaît le Christ, mais ça veut dire que à première vue elle n'a pas reconnu immédiatement le Christ. Ça veut dire que, alors, or elle le connaissait très bien, évidemment. De la même façon, les disciples d'Emmaüs, vous vous souvenez de cette scène, c'est la deuxième apparition du Christ. Il y a deux des disciples qui partent de Jérusalem vers Emmaüs, en train de discuter entre eux de tous les événements qu'ils avaient vécu, la mort du Christ, enfin sa passion, sa mort, son ensevelissement. Et un homme vient se joindre à eux, discute avec eux, et puis après avoir parlé pendant toute la fin de midi, eh bien, il s'arrête à l'auberge, et là c'est lorsqu'il rompt le pain qu'ils le reconnaissent. Donc en fait, de la même façon, ce corps glorieux faisait que, d'une certaine façon, il leur fallait la foi pour reconnaître le Christ. Et donc voilà, le corps glorieux, c'est cette appellation, parce que le Christ s'est ressuscité avec le corps, mais un corps particulier.
Et donc la Pentecôte, c'est donc, donc la descente du Saint-Esprit sur Terre. Est-ce que, quelles sont les vertus du Saint-Esprit? Ça fait partie de la Trinité, mais c'est peut-être celui de la Trinité qu'on connaît le moins.
Ah oui, mais c'est ce qui est paradoxal, puisque c'est sûrement celui qui agit le plus dans nos âmes. Alors effectivement, on sait que l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme, mais c'est la seconde personne de la Trinité, le Fils, qui se fait homme, et qui, comme je viens de le dire, à l'ascension, du coup, remonte au ciel avec son corps, avec le corps qu'il avait pris. Et il nous envoie, le Christ a fait cette promesse déjà à plusieurs reprises dans l'évangile d'envoyer un esprit, d'envoyer l'esprit de Dieu, le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père va envoyer en son nom. Et donc c'est effectivement la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, l'amour mutuel, l'amour subsistant du Père et du Fils, qui est envoyé pour accomplir dans nos âmes, dans les âmes de tous les hommes, depuis la fondation de l'Église, donc depuis ce jour de la Pentecôte, pour accomplir dans nos âmes, parmi nous, l'œuvre du Christ, l'œuvre de salut des hommes dans le monde. Et alors, le Saint-Esprit agit de différentes façons, et principalement par ce qu'on appelle les sept dons du Saint-Esprit. Et les sept dons du Saint-Esprit, il y a une une image qui est très parlante, il me semble, qu'on utilise au catéchisme, mais pour les enfants, mais qui est très belle pour tous. Dans notre vie spirituelle, souvent, on a l'impression de ramer. C'est-à-dire que pour avancer, eh bien, il faut faire un effort. Et c'est ce qu'on appelle, ça, c'est le régime des vertus, régime classique de la vie chrétienne. Alors parfois, on avance facilement parce qu'il y a les courants qui nous portent. Parfois, on doit ramer à contre-courant, donc c'est très difficile. Mais le Saint-Esprit qui intervient dans nos âmes, c'est comme si d'un coup, on mettait une voile sur notre bateau. Et donc, c'est le vent comme le souffle de l'Esprit qui va souffler dans la voile et qui va faire avancer notre bateau vers le port du salut, c'est-à-dire vers l'éternité, vers le ciel. Et donc, vous voyez, c'est le Saint-Esprit, d'une certaine façon, c'est Dieu qui va agir dans notre vie, non pas malgré nous, mais qui va nous porter avec un vent puissant dans des directions et avec une force que nos vertus, même surnaturelles, ne peuvent pas atteindre.
Et est-ce qu'il y a une particularité de la messe de la Pentecôte ce dimanche ?
Ah oui, alors des particularités, disons liturgiques, déjà parce que c'est une messe ancienne, très traditionnelle. Il y a par exemple deux chants tout à fait particuliers qu'on chante le jour de la Pentecôte, qui d'abord pendant la messe, la séquence qui dit « Venez Esprit Saint, envoyez-nous du haut du ciel un rayon de votre lumière ». Veni Sancte Spiritus, que je conseille à ceux qui écoutent d'écouter sur YouTube ou que sais-je, le Veni Sancte Spiritus chanté par des moines, par des religieux, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Et surtout, c'est une prière magnifique que je vous invite tous à lire et à faire. C'est une prière qui nous demande à Dieu de nous envoyer son Esprit Saint. Vous êtes le parfait consolateur, l'hôte bienfaisant de l'âme, vous êtes le rafraîchissement le plus doux. Et ça demande au Saint-Esprit de venir dans notre âme pour transformer ce qui doit être transformé, pour purifier ce qui est souillé, pour arroser ce qui est aride, pour guérir ce qui est blessé, pour rendre droit ce qui est tordu, pour rendre souple ce qui est trop raide, trop rigide, pour réchauffer ce qui est trop froid, pour rafraîchir ce qui est trop chaud, etc. Donc c'est très beau parce que chacun peut l'adapter à soi-même, aux particularités de son âme, et puis demander au Saint-Esprit de venir nous transformer intérieurement pour faire de nous des bons chrétiens, pour faire de nous des disciples du Christ qui n'ont plus peur de rien, comme les apôtres après avoir reçu ces flammes de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte.
Ce don de l'Esprit Saint. Merci beaucoup, Abbé Raffray. On rappelle donc que vous êtes déjà un intervenant régulier de Radio Courtoisie, que vous êtes professeur de philosophie thomiste à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin et que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Donc on invite nos auditeurs à vous suivre. Merci beaucoup. Bon week-end de la Pentecôte.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on retrouve donc pour cette chronique Marie-Lise Pélissier, adjointe du chapitre Notre-Dame des Tout-Petits, engagée pour la Marche pour la Vie et la Le Jeune Académie. Et puis donc Domiti Cassarotto, étudiante en géopolitique, investie dans plusieurs associations, notamment SOS Chrétiens d'Orient, dont elle est adjointe du chapitre au pèlerinage de Chartres. Alors je crois qu'elle a quelques soucis pour se connecter, mais c'est pas grave, on va commencer donc avec Marie-Lise Pélissier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors, on vous reçoit pour parler de ce fameux pèlerinage de Chartres, donc un succès grandissant. Mais Marie-Lise Pélissier, vous pourriez peut-être commencer par nous parler du chapitre dans lequel vous avez choisi de marcher, chapitre dont vous êtes adjointe d'ailleurs, puisque rappelons-le, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le fonctionnement du pèlerinage de Chartres, donc qui regroupe maintenant plusieurs milliers de pèlerins, eh bien, il y a donc ces chapitres et une façon d'organiser le pèlerinage. Chacun marche avec une intention un peu particulière. Maëlys Pélissier, je vous laisse nous expliquer quel est donc le but et la vocation de votre chapitre.
Notre chapitre est mis sous le vocable Notre-Dame des Tout-Petits parce que nous avons pour projet de prier et d'offrir nos 3 jours de pèlerinage pour les plus petits, les enfants à naître, mais aussi leurs mamans, les femmes enceintes en détresse, tous ceux qui peuvent être touchés par le drame de l'avortement ou de l'euthanasie pour aussi les handicapés. Voilà, toute cette question du respect de la vie des plus fragiles Nous savons que la prière reste l'arme la plus efficace, la plus importante. Et donc, nous avons monté ce chapitre l'année dernière dans le même dynamisme de notre université l'été, la Le Jeune Académie, pour pouvoir proposer justement aux personnes d'offrir leur pèlerinage, soit des personnes qui ont déjà fait plusieurs pèlerinages et qui voudraient cette fois le faire pour cette attention-là, ou alors des personnes qui n'ont pas l'occasion parce qu'ils ne savent pas où faire ce pèlerinage, mais qui sont dans ce combat et du respect de la vie. Et ça serait pour eux une occasion de faire le pèlerinage de Chartres dans notre chapitre.
Alors, on a Domiti Casarotto qui nous a rejoint donc, par téléphone. On va lui donner la parole aussi. Ce que vous nous dites, Marie-Lise Pellissé, c'est que finalement, ce chapitre dans lequel vous allez marcher, c'est un chapitre donc, qui s'engage sur des thématiques qui sont très actuelles. Et ça vient un peu bousculer l'image que certains pourraient avoir aujourd'hui de la chrétienté, des catholiques. On est très loin de cette idée poussiéreuse. Aujourd'hui, être catholique, c'est être résolument moderne et s'intéresser donc à ces questions de société. Domiti Casarotto, Vous marchez donc avec le chapitre d'SOS Chrétiens d'Orient, donc qui s'engage dans les pays qui sont actuellement soumis à certains conflits et donc dans lesquels les chrétiens sont maltraités. Ça aussi, c'est vraiment d'actualité.
Bonjour à tous. Effectivement, je marche avec le chapitre Sans Bénam et Sarah, qui est celui de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Et la spécificité de notre chapitre, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens volontaires, de futurs volontaires et puis d'amis de l'association SOS Chrétiens d'Orient, qui sont donc des amis donc des chrétiens d'Orient, qui sont dans certains pays persécutés, dans d'autres soumis à de graves difficultés économiques et sociétales. Et on marche en union de prière avec eux, c'est-à-dire à leurs intentions. En fait, on demande à tous nos pays d'émission de nous faire remonter des intentions de prière pour telle ou telle communauté, pour tel volontaire, pour des familles qui sont dans le besoin, pour d'autres qui sont face à des persécutions. Et donc on prie pour eux, on marche pour eux, et on ne doute pas que nos prières, quand on souffre, quand on a des ampoules, quand il fait chaud, au contraire qu'il pleut, eh bien prend une valeur supplémentaire aux yeux de Dieu dans l'effort, et on les porte dans nos prières. Et puis également, dans certains pays de mission, il y a un pèlerinage qui est organisé. Par exemple, c'était le cas en Irak l'an dernier, où ils étaient plus de 300, à faire comme un mini pèlerinage de chrétiens en Irak, ce qui est quand même extraordinaire. Et on est en union avec eux, ceux qui marchent là-bas, comme ceux qui marchent en France. Mmh.
Ce qui est frappant dans ce pèlerinage, Marie-Lise Pellissé, c'est l'attrait qu'il suscite. Chaque année, le nombre de pèlerins est croissant. Aujourd'hui, on en attend près de 19 000 donc, sur le pèlerinage qui va de Paris vers Chartres. On peut aussi noter qu'il y a un deuxième pèlerinage qui, lui, part de Chartres et remontera à Paris. Alors, d'ailleurs, j'en ferai partie. Donc, si certains auditeurs ont prévu de marcher pendant ce pèlerinage, eh ben, ce sera un plaisir de pouvoir peut-être les rencontrer. Vous pourrez aussi donc, rencontrer Marie-Lys et Domiti sur le pèlerinage donc, qui part de Paris vers Chartres. Et donc, on a cet attrait de la jeunesse et ce nombre de pèlerins toujours grandissant. Marie-Lise Pellissé, comment est-ce que vous expliquez ça?
Alors, je l'expliquerai par... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que le pèlerinage de Chartres, effectivement, grossit chaque année de par, en fait, ces piliers, ces trois piliers qui sont tradition, chrétienté, mission. Ces trois piliers, en fait, qui irriguent pendant trois jours tous les pèlerins. Il y a à la fois donc, la beauté de la messe traditionnelle, la beauté de ces trois jours consacrés à prier et à marcher, la beauté aussi du fait de se voir aussi nombreux à marcher pour la même chose, pour la Sainte Vierge, dans les pas de Charles Péguy, donc aussi dans les pas de la tradition. Et puis cette mission, en fait, ce pèlerinage de Chartres a vraiment attiré les foules, de par tout ce qu'ils proposent, de par ce qu'ils véhiculent, des gens qui nous voient passer dans la rue près de chez eux depuis des années à la Pentecôte nous ont rejoints, et également d'autres personnes qui nous ont vus sur les réseaux sociaux nous ont rejoints parce qu'ils sont attirés par cette joie, par cette jeunesse, par cette beauté. Donc je trouve ça pas étonnant que beaucoup de jeunes nous rejoignent, et que même des plus âgés, puisque aujourd'hui dans mon chapitre je vais avoir autant des jeunes que des plus âgés. Et un monsieur de 67 ans me disait qu'il n'avait jamais pu faire le pèlerinage physiquement, et que c'était la première fois qu'il pouvait le faire et qu'il en était très heureux.
Ouais, on est heureux pour lui. Même Iti Casaroto, quand on a échangé au sujet donc, du pèlerinage hier, quand on a organisé cet entretien, vous me parliez aussi de ces places qui allaient être offertes à tous les participants qui seraient tout simplement curieux, intéressés pour découvrir ce qu'est le pèlerinage, qui n'ont pas forcément la foi, mais qui ont simplement cette curiosité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Bien sûr, en fait, c'est une nouveauté qui a mis en place Notre-Dame de Chrétienté cette année-là, parce qu'il y a un reproche qu'on fait parfois au monde traditionnel et puis au pèlerinage de Chartres d'être un entre-soi, de se retrouver avec des gens qu'on connaît, dans un univers qu'on connaît, etc. Et en fait, bon, ça, c'est comme toujours un préjugé. Mais pour éviter de tomber dans ce piège qui reste à éviter, bien Notre-Dame de Chrétienté a mis en place un système pour continuer à évangéliser, pour attirer des personnes qui n'auraient pas forcément eu l'occasion de venir, qui peuvent être intéressées, qui ont soit perdu la foi, soit se sentent appelées à se renseigner, mais n'ont pas forcément en fait, des amis catholiques ou alors de la famille. Donc c'est vrai qu'il y a un côté social très important, et quand on est seul, c'est difficile de trouver un angle d'approche, quelqu'un qui nous prenne par la main et nous dise bah, « viens ». Tu vas voir, ça va être génial, on va prier, on va chanter, tu vas découvrir ce que c'est, on va répondre à tes questions. Et donc Notre-Dame de Chrétienté offre en fait des places par chapitre pour ce public-là. Et je trouve que c'est vraiment une idée excellente. Et dans le chapitre d'SOS Chrétien d'Orient, on a beaucoup de profils qui peuvent être un petit peu différents du catho tradi cliché. Et c'est une vraie richesse et c'est une joie de pouvoir offrir des places à des gens, peut-être pour des moyens financiers aussi, parce que quand on vient de hors de Paris, c'est vrai qu'il y a aussi le coût des billets de train qui fait que c'est plus compliqué de venir. Mais donc là, il n'y a plus aucune excuse, quoi. C'est l'occasion pour quelqu'un qui se pose la question depuis longtemps, qui cherche une porte d'entrée dans la foi et dans l'Église. Et bien là, la porte est grande ouverte et on les accueille avec joie.
Avec joie, quelques ampoules. Alors, chers auditeurs, les places, les inscriptions sont closes donc pour le pèlerinage. Il n'y a plus de place parce que bon, 19 000 pèlerins, c'est déjà costaud. Il y a quand même un chapitre Sainte Patience qui a été créé, que vous pouvez rejoindre. Les catholiques ont de l'humour. Sainte Patience, donc, il vous invite à vous inscrire sur une liste d'attente. Puis s'il y a désistement, vous pourrez peut-être avoir une place. On arrive à la fin de cette chronique, mais on consacrera probablement un autre sujet donc, à ce pèlerinage de Chartres un peu plus important, notamment avec tous les enjeux qui se cachent derrière cette promotion aussi de la tradition, de la messe traditionnelle qui pose débat dans les médias. Mais donc, pour aujourd'hui, on en a terminé avec vous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne marche, Marie-Lise Pélissier et Domiti Casaroto. Merci de prier pour toutes ces belles intentions, donc les tout-petits, les mamans, les enfants à naître. Et puis les chrétiens d'Orient, on vous souhaite donc une bonne marche et puis à très bientôt.
Ligne droite.
Et Adèle Rochner, vous continuez avec cet entretien.
Tout à fait. Alors, on va parler pèlerinage de Chartres aujourd'hui, puisqu'il aura lieu ce week-end. Il va débuter samedi matin. Tous les pèlerins, 19 000 personnes, seront au rendez-vous sur le parvis de Saint-Sulpice, dès 6h du matin, même dès 5h, 5h30 du matin plutôt. On va être dans la 43e édition qui a pour thème cette année « Pour qu'il règne sur la terre comme au ciel ». Et pour parler de tout ça, nous recevons aujourd'hui l'abbé Jean-Raphaël Dubrulle, qui est de la Miséricorde divine. Bonjour monsieur l'abbé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis aussi Cyprien, vous êtes chef de chapitre donc au pèlerinage de Chartres. Bonjour.
Merci pour votre invitation.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, on commencera tout simplement. 19 000 marcheurs, c'est un chiffre assez impressionnant. Chaque année, là, depuis quelques années, il y a un vrai engouement. Le pèlerinage est obligé de mettre des limites au moment des inscriptions parce que sinon le site s'arrête, le site bloque. En tout cas, c'était le cas cette année. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire 19 000 marcheurs, monsieur l'abbé ?
Ça veut dire qu'il y a un renouveau de la... Je pense que ces 19 000 marcheurs qui ne sont pas forcément que des marcheurs qui sont déjà catholiques depuis longtemps, c'est une augmentation... avec des marcheurs qui reviennent à la foi. Et donc, je pense que c'est un signe, un petit signe, hein, d'une nouvelle vitalité de la foi chrétienne. Et ça souligne aussi que cette forme de vie spirituelle, d'expression de la vie spirituelle, c'est-à-dire de volonté de faire monter son âme vers le Seigneur à travers une démarche physique, eh bien, attire. Il y a ça au pèlerinage de Chartres, mais on voit qu'il y a beaucoup de pèlerinages locaux qui se développent aussi. L'année dernière, il y en a un en Provence, Nostoffé, qui s'est lancé, qui avait accueilli 2000 personnes. qui viennent nourrir leur foi et qui ont besoin de ces oasis très fortes, des moments très forts pour pouvoir entretenir leur foi au cours de toute l'année. Voilà, et puis aussi, ça signifie qu'ils sont heureux de cette manière, voilà, de ce que propose Notre-Dame de Chrétienté, avec quelque chose de très fort, de très exigeant physiquement. Alors moi, je suis dans les chapitres famille maintenant, donc c'est quand même moins exigeant physiquement pour les prêtres.
Ça reste quand même un bel exploit.
Mais ça reste quelque chose, je vois, avec les familles qui viennent de Toulon, il y en a, c'est les enfants, donc ils veulent quelque chose de très fort. Donc ça souligne qu'il y a une volonté d'ancrer sa foi très fortement et avec des moments très forts comme ça.
Oui. Et au sein de la colonne, vous, par exemple, dans votre chapitre, Cyprien, est-ce que vous sentez la différence? Parce que je suppose que ce n'est pas la première année que vous êtes chef de chapitre, ça doit faire des années que vous faites, vous faites le pèlerinage.
Ça fait à peu près 4 ans que je suis chef de chapitre et ça fait une dizaine d'années que je fais le pèlerinage à peu près.
Donc vous avez dû voir l'évolution quand même avec le nombre de pèlerins qui augmente. Est-ce que ça se sent au sein d'un chapitre? Est-ce qu'il y a une dynamique plus forte, par exemple, auprès des pèlerins qui marchent avec vous?
Alors, au niveau de l'inscription, évidemment, il y a une dynamique extrêmement forte. On a été presque débordés. Et les inscriptions sont closes extrêmement rapidement. Au sein du chapitre, en fait, un chapitre, on peut mettre une jauge de personnes. Mais effectivement, il y a une certaine ferveur supplémentaire. C'est-à-dire que les gens, parfois, les années précédentes, enfin, je dirais, si on remonte il y a 7-8 ans, s'inscrivaient en dernière minute, disaient « Tiens, pourquoi pas, je vais venir ». Là, il y a une véritable démarche parce que pour prendre des places, ça devient presque aussi compliqué que pour un concert de rock. Donc, il y a un moment, ils s'engagent vraiment dans la démarche et je l'ai vu cette année avec des pèlerins qui m'ont proposé quasiment spontanément de faire des méditations, de participer vraiment à la vie de chapitre. L'année dernière, j'avais eu un petit peu de mal à avoir des adjoints. Là, cette année, j'en ai 4 ou 5. C'est royal pour un chef de chapitre, on va dire. Mais il y a une vraie dimension d'engagement qui prend de plus en plus corps, même chez des pèlerins qui ne viennent pas du monde catholique. J'en ai quelques-uns dans mon chapitre et il y a une vraie démarche de foi.
Bon, on pourra reparler de ces pèlerins qui viennent pour découvrir aussi la foi catholique, qui viennent vraiment en néophyte, qui ne sont pas encore convertis ou en tout cas qui sont en chemin. Monsieur l'abbé, vous parliez d'un véritable renouveau de la foi et puis on peut dire aussi un renouveau de la tradition, puisque la tradition est au cœur de ce pèlerinage. Malgré tout, on voit qu'en France, il y a eu beaucoup de baptêmes cette année, mais en tout cas, on sait qu'il y a une perte de foi dans notre société actuelle. Mais c'est quand même un véritable bon signe de voir tous ces gens se motiver et prendre les devants pour aller marcher et pour leur foi.
Oui, alors renouveau de la foi, je serais pas au centre. On a des signes d'un renouveau de la foi, des frémissements. C'est pas encore massif. Il y a beaucoup de baptêmes d'adultes, mais les chiffres des baptêmes d'enfants sont encore en baisse parce qu'on voit les effets de la déchristianisation. Mais il y a des signes qui sont quand même encourageants et qui soulignent, qui nous montrent, nous qui nous donnons du mal pour essayer d'amener les gens à Dieu, que quand l'Esprit Saint veut, il souffle. Il y a un peu plus dans les âmes. Et ce qui est très beau, c'est que, je trouve, on voit ça au pèlerinage de Chartres, et puis on voit ça aussi dans les paroisses, c'est que ce sont maintenant, ce qui fait augmenter les paroisses, c'est pas des gens un peu... et notamment vers la messe traditionnelle, ce n'est pas des gens qui sont déçus parce qu'ils ont été peut-être un peu moins nourris ailleurs ou étaient dans des lieux plus pauvres spirituellement ou liturgiquement. C'est des gens tout simplement qui reviennent parce qu'ils veulent Dieu, ils ont été touchés intérieurement, vraiment, il y a une motion d'Esprit Saint, ils veulent un retour à la foi, ils veulent se rapprocher de Dieu et ils trouvent dans l'expression de la forme ancienne quelque chose qui leur convient, qui les nourrit. Et voilà, c'est un des points qui est très encourageant, je trouve. Et puis, voilà. Et qu'on retrouve au pèlerinage, hein, quand on accompagne, on a des gens qui débarquent d'un peu nulle part et qui viennent là. Alors, c'est pas du tout. Là, je pense que tout le monde en convient. Hein, c'est pas du tout c'est pas du tout dans les mêmes générations qu'il y a. Moi, je fais le pèlerinage depuis très longtemps, en tant que jeune, puis prêtre, puis pas bref. Et c'est plus du tout le même public, de gens avant qui étaient un peu militants, ouais, qui venaient pour défendre la forme ancienne, parmi les fidèles qui sont là, ils l'aiment beaucoup et ils y viennent pour ça, c'est clair, mais parce que c'est un lieu qui les nourrit bien, très bien, dans leur relation à Dieu. C'est beaucoup, je me semble, un très... Maintenant, les pèlerins y vont parce que c'est... parce que c'est, ils sont attachés à cette, voilà, au sacré, mais moins militants, je dirais, voyez, moins qu'avant. Ça, c'est, ça me semble à peu près évident.
Mmh. Mais il y a quand même cette dimension, vous pensez, traditionnelle, qui joue un rôle important.
Bien sûr. Et donc, il y a ce qui, enfin, et je pense aussi, ce qu'on souligne peut-être pas assez, c'est qu'avec l'attachement liturgique, il y a aussi une prédication doctrinale, une prédication d'une exigence morale qui marque les gens. Et les nouveaux convertis ont besoin de cette exigence, voilà, d'un message qui soit pas fade, finalement, qui soit pas un peu édulcoré. Et qui soit centré sur l'essentiel, sur les piliers de la foi chrétienne, la conversion intérieure, la fidélité au commandement de Dieu. Ce qui est évidemment, le pèlerinage de Chartres n'est pas l'exclusivité de la prédication de ça, mais en tout cas, ils viennent chercher ça. Donc, vous voyez, c'est pas le terme radicalité n'est pas bon, mais ils viennent une authenticité de la foi chrétienne, du message chrétien qui retrouve au pèlerinage de Chartres. Donc, je pense que c'est pas que la question liturgique, c'est tout ce qui va avec, et notamment la prédication doctrinale et morale.
Mmh. Oui, il y a un certain cadre qui est donné et que les gens recherchent sans doute dans la société. Et vous, Cyprien, dans votre chapitre, vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on passe à l'antenne, qu'il y a beaucoup il y a un certain nombre en tout cas de pèlerins qui viennent, qui ne connaissent pas bien la foi catholique, qui découvrent complètement. C'est important, vous pensez, d'avoir ce genre de personnes venir marcher?
Je pense que c'est plus qu'important, c'est une grâce en fait. C'est une grâce à la fois pour les pèlerins catholiques qui viennent, parce qu'ils voient la richesse de ce qu'ils ont reçu et de ce qu'ils vivent. Et c'est aussi une grâce pour ces personnes-là, justement, qui viennent découvrir, parce que, moi, ça fait 4 ans que je suis chef de chapitre, ça fait 4 ans que j'ai entre 15 à 20% de mon chapitre qui vient d'horizons très différents. Et j'ai eu des protestants évangéliques, j'ai eu des athées, des agnostiques. Là, cette année, j'ai un musulman. Il y a une vraie diversité d'origine. Et en fait, cette diversité d'origine nous permet en fait de voir le message du Christ qui se répand et qui se communique dans le monde. Si je reviens un peu sur la question de la liturgie, j'avais ma filleule, qui était du coup protestante évangélique, et qui, en fait, venait parce qu'elle ne trouvait pas ça chez elle, ce sens du sacré, ce sens de cette distinction, en fait, entre le monde et le sacré. C'est quelque chose qu'elle a découvert en grande partie au pèlerinage de Chartres, en tout cas qu'elle a approfondi là. Et un de ses amis qui était venu, qui était juif messianique, lui, c'est-à-dire protestant évangélique, juif converti au protestantisme évangélique, quand elle a tenté de lui expliquer la messe avec un missel, elle a répondu « Non mais t'inquiète pas, hein, je suis comme à la maison », tout simplement. Donc en fait, c'est montrer l'aspect, on va dire, très universel de cette forme liturgique.
D'accord, c'est très intéressant en tout cas, expliqué comme ça. On revient très vite avec vous. Pour rappel, chers auditeurs, nous sommes en train de parler donc de cette 43e édition du Pèlerinage de Chartres avec l'abbé Jean-Raphaël Dubrulle de la Miséricorde Divine et puis Cyprien qui est chef de chapitre au Pèlerinage de Chartres. À 7h30 ensuite, vous retrouverez la chronique de Raphaël Audouard, puis Éric Tegner de la rédaction de Frontières pour parler de la réalité des routes migratoires. Tout de suite, on revient donc à ce sujet du Pèlerinage de Chartres. Le thème cette année, j'aimerais revenir un peu dessus parce que c'est un très beau thème, pour qu'il règne sur la terre comme au ciel. Donc on parle vraiment de cette dimension de Christ roi qui doit régner. C'est ce que dit, en tout cas c'est ce qui explique l'organisation du pèlerinage. C'est montrer que le Christ règne sur les fidèles, règne sur le ciel, mais règne doit aussi régner sur les sociétés et puis sur les institutions. Monsieur l'abbé, vous pensez que c'est quelque chose qui manque à notre société, cette dimension de Christ roi?
Évidemment que ça manque, mais ce qui manque, en fait, il y a un échelon intermédiaire parfois qu'on oublie. Pour que le Christ règne sur les sociétés, il ne va pas régner par des décrets. Si Monsieur Macron déclarait le Christ roi, avec 99% de la population qui n'est pas catholique et qui n'est pas convertie, le Christ ne pourrait pas régner. C'est pas par décret que le Christ règne, c'est le signe que l'ensemble des membres d'une nation, l'ensemble, la majorité, veulent en vivre. Donc en fait, c'est ce à quoi il faut tendre, et c'est peut-être ce qui est parfois pas suffisamment bien souligné, et que je veux souligner le pèlerinage de Chartres, notamment, et par ce thème, c'est que c'est l'enseignement de l'Église depuis toujours, hein, depuis XI, et puis ça a été repris par Vatican II aussi, que hein, les sociétés doivent reconnaître la foi catholique comme la vraie religion. Mais pour cela, il faut commencer par une conversion des cœurs des fidèles. En fait, c'est comme ça que le Christ va régner. Mmh. Et la chrétienté s'est développée d'abord par une conversion, par 3 siècles de prédication, au cours de prédication des apôtres, puis pour amener les gens à la foi. Et les gens ayant la foi, c'est là que les institutions ensuite peuvent devenir chrétiennes. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'on est revenu à une terre de première évangélisation, c'est ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation, et donc il faut faire ce travail, et je pense que un pèlerinage comme ça, un pèlerinage de Chartres, est beau parce qu'amène à la foi, et puis dit, en fait, on n'est pas simplement chrétien entre nous, et puis juste au pèlerinage de Chartres, mais après ça doit rayonner, et on doit être missionnaire autour de nous, au travail, et c'est ainsi que le Christ va régner. Et je pense que le message est absolument essentiel d'être entendu, mais on ne doit pas être dans quelque chose qui oublie les champs intermédiaires, qui est de dire, il faut, de toute façon, ça prendra du temps, parce qu'il faut que beaucoup de gens se convertissent. Donc, il ne peut pas y avoir cette prédication de la doctrine du Christ-Roi, indépendamment d'un enseignement à la mission. Et c'est pour ça que je reprends ce qui était dit. Moi, je pense que ce n'est pas important qu'il y ait des personnes nouvellement converties ou pas converties qui viennent au pèlerinage. C'est absolument vital, parce que, bon, c'est ma conviction, je pense que nous allons devenir une église de néo-convertis. C'est-à-dire qu'il sera au-delà de ces questions même des liturgies qui nous centrent, sur lesquelles on est très centré, qui diront en fait « montrez-nous Dieu » et on a besoin de Dieu parce qu'on voit que si Dieu n'est pas présent dans notre vie et dans la société, c'est la catastrophe. Et tous ces jeunes convertis nous ressentent sur l'essentiel. Moi, je trouve que c'est un bain de fraîcheur pour nous prêtres et parce qu'ils nous disent « donnez-nous l'intégralité de la foi, on en a besoin » et c'est comme ça que je pense que le Christ pourra régner et parce qu'il doit régner de plus en plus, sinon c'est la fin du monde. Hein.
Mmh. Oui, il y a une vraie ferveur de ces nouveaux convertis. Vous l'observez, Cyprien, au fond. Enfin, dans votre chapitre, ça donne ça soutient la foi du chapitre. Enfin, ça donne peut-être plus de ferveur à ceux qui croient déjà pour montrer peut-être l'exemple.
Ah bah, c'est sûr que ça nous bouscule.
Mmh. Oui.
C'est-à-dire que quand vous êtes issu de familles allant classiquement à la messe tous les dimanches, en ayant le repas dominical, tout ça, vous êtes tranquillement installé dans votre foi. Et dans votre horizon apparaissent des gens qui, eux, ont une vérité, sont vraiment affamés du Christ. Mmh. Et sont affamés de la vérité du Christ. Et ils vous posent des questions. Mmh. Et quand vous commencez à creuser avec eux les questions, vous vous rendez compte des trésors que vous a donné l'Église. Et vous vous rendez compte de ce que vous pouvez non seulement leur apporter, mais de ce qu'ils vous apportent par ce questionnement, par cette faim qu'ils ont. Parce qu'on est souvent un peu des enfants gâtés. On a reçu des bonnes formations, un catéchisme, etc. Mais ces pèlerins viennent nous faire approfondir notre foi et nous faire rentrer vraiment dans cette dimension de la mission qui est une des composantes essentielles de notre domaine de chrétienté. Il y a la tradition dans laquelle on puise nos racines, un peu comme un arbre, la chrétienté qui est le corps, le tronc de l'arbre, et les branches qui sont les fruits de la mission. Et en fait, cette dimension missionnaire, elle prend des proportions de plus en plus importantes au sein de notre domaine de chrétienté.
Mmh. Bah, on va devoir malheureusement terminer sur ces mots parce que voilà, l'émission touche à sa fin. Mais merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Cyprien, aussi. Et puis, on vous retrouvera. Si des auditeurs qui nous écoutent font le pèlerinage de Chartres, eh bien, ils pourront peut-être vous croiser sur les chemins de cette belle cathédrale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de Ligne droite consacrée ce matin à la Pentecôte et au pèlerinage de Chartres. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire en nous faisant des dons en ligne sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, ou bien encore d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Ligne droite sera de retour dès demain en direct à partir de 7h. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon lundi de Pentecôte et je vous dis tout simplement à demain.